Faire un panorama des partis d'extrême droite en Europe aujourd'hui présuppose deux choses. La première, c'est qu'on définisse exactement de quelle aire géographique on parle. Et en l'occurrence, pour des raisons à la fois de temps et de cohérence, je préfère parler ici des pays de l'Union européenne et exclure notamment cet immense champ de recherche sur les droites extrêmes qu'est la Russie. Le second problème tient au terme même d'extrême droite, parce qu'il est toujours très connoté, très relié à l'histoire européenne du XXe siècle, et en particulier des années qui vont de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Spontanément, si l'on interroge des citoyens d'un pays, l'Union européenne, sur à quoi pensez-vous lorsqu'on vous dit extrême droite, la réponse va surgir aux années 30, au fascisme, au national-socialisme et aux mouvements qui leur étaient associés. Or aujourd'hui, il ne s'agit pas de nier que ces droites soient extrêmes, mais de bien voir que, mis à part des mouvements le plus souvent marginaux, qui se réclament encore de l'invariance idéologique, ou du moins de la filiation des fascismes et du national-socialisme, il y a un mouvement énorme qui existe, et qui est celui d'appropriation de la modernité par des partis d'extrême droite en voie de, je renvoie ici à l'exemple français, dédiabolisation, et qui savent parfaitement s'abstraire du souvenir des années 30 et du fascisme ou des mouvements similaires pour, au terme de quelque chose qui n'est pas un travestissement idéologique, qui n'est pas uniquement une tactique, parler aux électeurs de 2016 en faisant référence aux problèmes de la société actuelle, avec les mots de la société actuelle et avec les outils de communication de la société actuelle. Une fois ces deux préalables mis, on constate effectivement que depuis les années 1980, les succès électoraux de ce qui est communément appelé extrême droite se multiplient. Tout a commencé au milieu des années 70, en fait, dans deux pays scandinaves, la Norvège et le Danemark, où une portion minoritaire de la droite, en rupture avec le consensus autour du modèle social, dit y compris ici modèle scandinave, a décidé de bâtir son propre parti autour d'une protestation antifiscale, d'une part, et d'autre part d'une volonté explicite de remettre en cause le modèle de protection sociale propre à ces pays. Ça a finalement assez bien marché, ça n'était que deux cas isolés. Et puis ensuite, on a vu dans d'autres pays un effet qui se ressent encore aujourd'hui, d'épuisement, ou du moins d'affaissement des traditions idéologiques de la droite libérale et de la droite conservatrice, et de monter en puissance d'un objet qu'on considérait, lorsque le Front National a commencé à engranger les succès au milieu des années 80, qu'on considérait donc comme un ovni, et qui est une forme de droite populiste, xénophobe, qui par ailleurs gardait ses racines, et garde encore dans certains cas ses racines, dans l'histoire de l'extrême droite. C'est très vrai pour le Front National. Lorsqu'il naît en 1972, et jusque très tard, il est un mouvement d'extrême droite, mais tout en s'adaptant à ce qui était déjà vu comme un obstacle majeur à l'accession au pouvoir, qui est le simple fait de maintenir la flamme du fascisme ou du national-socialisme. Petite précision, la constitution allemande, la constitution autrichienne interdisent la reconstitution d'un parti néo-national-socialiste. De même qu'en Italie, il n'est théoriquement pas possible de recréer le parti fasciste. Ça impose aussi un certain nombre de nouveaux modes d'identification, de nouvelles manières de s'exprimer, mais ailleurs, c'est bien des populismes qui ont émergé en Scandinavie, en Suisse avec l'évolution de l'Union démocratique du centre lorsque Christophe Blocher en a pris le contrôle, en France avec le Front National. Ce phénomène nouveau, c'est un populisme qui explique que le principal échelon de souveraineté qu'est la nation a été dépossédé au profit de formes supranationales dont l'Union européenne est identifiée comme le principal adversaire, d'une part, et que d'autre part, il existe une autre forme de dépossession qui est celle des citoyens, aujourd'hui on dit entre guillemets de souche, par un phénomène d'immigration massive venu de territoires non européens qui, et ça c'est une précision majeure, n'est plus une immigration économique mais une immigration de peuplement. C'est-à-dire qu'il y a déjà dans cette manière de présenter les choses qu'avait le Front National dans les années 80, par exemple, cette idée du remplacement progressif d'une population dite de souche, non pas simplement parce que l'on fait venir une force de travail, une main-d'œuvre de l'extérieur de l'Europe, mais parce qu'il existe une forme de volonté entre guillemets des élites, de remplacer petit à petit le substrat, osons le mot, biologique de la population, par une population de substitution, ce qui fait qu'au final, l'Europe n'aura plus ni son histoire, ni ses traditions, ni sa culture. Alors, essayons de voir quels sont les principaux pays dans lesquels ces succès ont été visibles. Les pays scandinaves, je l'ai dit, le Danemark avec le Parti du Peuple Danois, la Norvège qui n'est pas dans l'Union Européenne avec le Parti du Progrès, et puis plus tard, bien plus tard, au milieu des années 2000 avec le bien nommé Parti des vrais Finnois ou vrais Finlandais qui est l'exemple même de comment on détermine par le nom même du parti, une démarcation entre ceux qui sont à l'intérieur du groupe et ceux qui sont à l'extérieur du groupe. Hein, il y a les vrais Finlandais, puis il y a de l'autre côté les autres, et les autres d'ailleurs ce ne sont pas uniquement des étrangers non européens, c'est aussi les minorités. Les minorités lapones et suédoises qui sont considérées par ce parti comme n'ayant pas le même substrat culturel et partant comme étant des citoyens d'une nature différente, voire de seconde zone. Il y a eu également le cas du FPÖ autrichien, qui était un parti historiquement très intéressant à étudier, parce que sous un autre nom, dès 1949, il a été conçu pour réintégrer au jeu politique autrichien l'ensemble de celles et de ceux qui avaient été rapidement dénazifiés parce qu'ils étaient, selon la nomenclature juridique de l'époque, des suiveurs, des membres de base, disons, du parti nazi ou de ses organisations satellites. Ces gens qui se comptaient par millions, il fallait à un moment donné, lorsqu'ils recouvraient la totalité de leurs droits civiques, si tant est qu'on les aurait enlevés, il fallait les réintégrer au jeu politique, leur permettre de voter pour une formation et leur permettre, s'ils voulaient faire de la politique, de poursuivre un parcours au sein d'une formation. Et c'est là l'origine du FPÖ, qui devient petit à petit un parti hybride dont une aile était assez réellement libérale, affiliée à l'Internationale libérale, dont l'autre continuait à être sur un logiciel pan-germaniste, ultranationaliste, xénophobe, bref, d'une certaine manière héritière de la tradition nationale-socialiste, mais qui, pour les raisons juridiques que j'ai évoquées précédemment, mettait évidemment tout ça entre parenthèses. Et puis, ce parti, qui était finalement un partenaire mineur de coalition dans les années 70-80, y compris pour le Parti social-démocrate, sous la houlette de quelqu'un doté d'un charisme important, qui s'appelle Jörg Haider, devient un véritable parti qui part à l'assaut de son concurrent conservateur, chrétien-démocrate conservateur, et qui petit à petit récupère tout le potentiel de protestation, notamment chez les ouvriers, les employés, les chômeurs, de sorte que de 6% à la fin des années 70, il devient aux élections de 1999 un parti indispensable à l'émergence d'une coalition politique et un parti de gouvernement. Et alors là, c'est un exemple très intéressant de précisément ce qui arrive, ce qui peut arriver lorsque ces partis sont associés au pouvoir. Le FPE est élu après une campagne électorale qui n'est pas, loin s'en faut, faite sur un logiciel ultralibéral. C'est davantage de protection pour les ouvriers autrichiens, davantage de protection pour les entreprises autrichiennes. C'est un programme social sur les questions liées à la couverture de santé ou retraite. Et puis, le piège que va tendre à ce parti le chancelier conservateur Schüssel, c'est de donner au FPE des portefeuilles qui le mettent en porte-à-faux avec son électorat d'origine. Le portefeuille des affaires sociales, par exemple. Et l'on voit que, ayant le ministère des Finances et celui des Affaires sociales, celui de la Justice aussi, le FPE va mener, une fois intégré dans cette coalition, non pas une action conforme à son programme, mais inverse à son programme. Une action ultralibérale, classique, le ministre des Finances fait des coupes sombres dans le budget, la ministre des Affaires sociales explique qu'il faut serrer la ceinture, et au scrutin suivant, eh bien, se passe évidemment ce qui devait se passer, à savoir que l'électorat populaire déserte en masse ce parti qui revient à un étiage de 10%. Mais tout cela n'est que cyclique, c'est-à-dire que la disparition du FPE se fait lorsqu'il commet l'erreur de se laisser associer au pouvoir et de se mettre en porte-à-faux avec ses promesses. Après une nouvelle cure d'opposition, après l'émergence d'un nouveau leader, il revient aujourd'hui, plus que jamais, sur l'avant-scène de la vie politique. Et on a là un cas d'école de ce qui pourrait arriver dans d'autres pays. Si le choix était fait d'associer des partis similaires au pouvoir. Ils sont toujours dans une situation de porte-à-faux, ils s'en sortent ensuite plus ou moins bien. Parce que précisément, ils ont d'abord intrinsèquement une dimension protestataire, anti-système, qui les met en porte-à-faux avec des électeurs qui ne les ont pas nécessairement choisis pour qu'ils assument les responsabilités du gouvernement. Et puis ensuite, ils sont, y compris notre Front National, sous la présidence de Marine Le Pen, non pas sur un logiciel rigano-tatchérien comme l'était Jean-Marie Le Pen dans les années 80, mais ils répondent à une demande de protection sociale, à une demande de davantage d'État, et non pas de retrait de l'État et de démantèlement de l'État, à une demande de frontières, à une demande de verticalité sociale, évidemment, mais à une demande de sécurité qui peut se manifester à la fois par la volonté de l'enclosure, c'est-à-dire de supprimer tout pouvoir supranational pour se réfugier derrière non seulement le protectionnisme économique, mais aussi le fait de quitter les instances européennes. Et puis, ils ont cette volonté de donner davantage aux perdants de la mondialisation. C'est ce qui a fait que beaucoup d'auteurs considèrent que l'extrême droite européenne, jusqu'à nos jours, est un mouvement qui voit les exclus de la mondialisation se dresser contre les inclus, les perdants de la globalisation exprimer leur frustration devant des changements qui sont trop rapides, d'une part, et qui, d'autre part, ne leur profitent pas. C'est vrai, mais c'est un peu partiel comme explication, parce que on voit de plus en plus ces partis faire aussi un certain nombre de scores impressionnants au sein de catégories sociales qui ne sont pas les catégories les plus populaires, qui ne sont pas non plus les chômeurs ou les précaires. 30% des voix pour le Front National aux élections régionales de 2015 chez les agents du service public. Alors les agents du service public, ça recouvre évidemment un spectre très très large de statuts, de rémunérations, mais c'est tout de même quelque chose de nouveau. Il y a également, on le voit en Hollande avec le Parti de la Liberté de M. Wilders, tout un électorat urbain, éduqué, qui et socialement bien inséré, et qui choisit ses partis parce qu'il retourne de manière très habile et difficile à contrer pour la gauche un certain nombre de thèmes qui, à la fin des années 70, à partir de la fin des années 70, sont typiquement des thèmes de la gauche libérale libertaire. Que nous dit M. Wilders ? Il nous dit que son parti est le rempart des citoyens qui se sentent menacés dans leur liberté par l'islam, le rempart pour les homosexuels, le rempart pour les juifs, parce que le néo-antisémitisme n'est plus le fait de l'extrême droite, mais d'une frange de la population d'origine immigrée et de confession au moins nominalement musulmane, que l'islam est l'ennemi des femmes, et que par conséquent son parti est le rempart des femmes contre une nouvelle forme de totalitarisme qui est celui non pas de l'islamisme, mais de l'islam, puisque l'une des caractéristiques de ces partis, c'est d'essentialiser l'appartenance à la culture musulmane, et de considérer d'une part que l'islam n'est pas une religion, mais un projet politique, et d'autre part que toute personne qui est originaire d'un pays d'islam est finalement partie prenante, d'abord à un phénomène de changement de la population européenne, mais aussi d'un phénomène totalitaire. Je crois qu'il serait très imprudent de penser qu'on a totalement changé de modèle. Il ne s'agit pas de dire, comme le font certains milieux militants, que l'extrême droite n'a pas changé et que c'est au fond le retour du fascisme. Juridiquement, par ailleurs, il est exact que ces partis ont aussi su s'adapter très rapidement et très efficacement à tout l'arsenal législatif qui, dans la plupart des pays d'Europe, punit maintenant l'expression publique du racisme et de l'antisémitisme, mais pour autant, il y a tout de même des points qui permettent de dire que oui, il y a effectivement des réminiscences de racisme. Simplement, c'est plus le même. Si l'on entend par racisme ce qu'on appelait le racisme hiérarchisant, c'est-à-dire celui qui établit une hiérarchie des races, avec au sommet la race blanche, disaient certains, la race aryenne, disaient d'autres. Et ensuite, des races qui seraient dotées de qualités infiniment moindres. Alors, effectivement, il y a encore des mouvements qui sont sur ce type d'idéologie. Et notamment, ces dernières années, on a vu quelques partis assez ouvertement néo-fascistes, je pense à celui de M. Kotleba en Slovaquie, engranger des succès électoraux non négligeables en expliquant que, par exemple, les populations roms, puisque c'est contre elles que le racisme est principalement dirigé dans cette partie de l'Europe, sont dotées de caractéristiques génétiques qui les rendent inférieures à celles du reste de la population. Mais ce n'est pas le modèle dominant. Le modèle dominant, il est plutôt d'expliquer, et ça c'est un leg de ce que la nouvelle droite a mis en forme intellectuellement dans les années 70, que non plus les races, mais les peuples, les cultures, sont divers, distincts, que chacun et chacune d'entre eux ou d'entre elles a non seulement ses spécificités, mais j'allais dire ses beautés, ses caractéristiques qu'il convient de préserver, et que l'issue naturelle de ce raisonnement, qui n'est pas un raisonnement raciste, au sens premier du terme, puisque, encore une fois, chaque culture est vue comme ayant sa dignité et sa place. Eh bien, ces cultures, puisqu'elles sont si diverses, elles doivent s'épanouir chacune sur un territoire donné et ne pas venir polluer, contaminer les autres. Autrement dit, on est sur un modèle différentialiste qui n'établit plus de hiérarchie, mais qui part du principe que l'incomparabilité des cultures et des peuples impose de valoriser la diversité, ce qui a priori peut paraître éminemment souhaitable, mais ce culte de la diversité va jusqu'au refus de toute forme de métissage et de, j'allais dire, d'empiètement sur le modèle culturel voisin. Alors, il ne s'agit pas là non plus de dire que il n'y a plus aucune trace de racisme dans tout ce discours. À partir du moment d'abord où on essentialise les appartenances, on assigne les individus à un groupe qu'ils n'ont pas nécessairement choisi. C'est ça le discours aujourd'hui de ces partis sur l'islam, c'est d'assigner à résidence des individus qui sont peut-être, oui, de culture musulmane, par les cultures qu'ils ont reçues, mais l'évolution après peut être celle d'un affranchissement, à leur identité d'origine. Ça n'est pas du racisme au sens auquel on était habitué de ce terme, parce que ça ne consiste pas à dire qu'ils sont inférieurs, mais c'est bel et bien une assignation identitaire, et par ailleurs, cette assignation identitaire va de pair avec un discours qui, dont beaucoup de ses parties, consiste à dire que oui, il y a incompatibilité entre les valeurs de la culture musulmane et de la religion musulmane avec celle de l'Europe. À partir du moment où il y a incompatibilité, qu'est-ce qu'il reste comme possibilité à l'individu qui a eu la mauvaise chance de naître musulman ? Eh bien, soit de renier cette culture, c'est une forme d'assimilation extrêmement poussée, qui n'est pas dans nos traditions, ou bien alors le départ. Et puis par ailleurs, lisons bien les programmes, lisons-les jusqu'au bout. Ne soyons pas prisonniers du discours médiatique que ces partis distillent et qui consistent à jurer, si j'ose dire, leur grand Dieu, qu'ils ont abandonné toute volonté de renvoyer dans leur, entre guillemets, pays d'origine les populations extra-européennes. Lorsque un responsable frontiste, après que Nicolas Sarkozy se soit exprimé lors de la primaire sur le regroupement familial, tweet « Le regroupement familial, oui, mais au pays », il faut immédiatement décoder. Si le regroupement familial se fait au pays, cela nécessite que des individus qui séjournent légalement sur le territoire français le quittent. S'ils ne le quittent pas par un acte de volonté, eh bien, ça veut dire qu'on le leur fera quitter. Incontestablement, le populisme xénophobe et ethnicisant est un phénomène qui touche la quasi-totalité du monde occidental. En 2016, le One Nation Party de Madame Hanson est revenu au Parlement australien. C'est certes un parti de marge, mais tout de même. Et puis on a eu évidemment l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Et si Donald Trump lui-même n'est évidemment pas un homme d'extrême droite, sa candidature et sa campagne ont vu monter dans le wagon une quantité assez importante de gens qui, clairement, sont sur une idée du suprémacisme blanc qui pose d'ailleurs problème au président élu lui-même. Donc on est face à un phénomène qui est occidental. Moi, je suis assez sceptique sur la pertinence de dire d'un côté il y a l'Europe centrale et orientale où le phénomène est extrêmement profond, extrêmement violent, et puis de l'autre côté l'Europe occidentale qui aurait, elle, par son histoire, par l'héritage des Lumières, par ses institutions, des garde-fous. Il y a effectivement en Europe centrale et orientale des particularités dont la virulence du racisme anti-Rome n'est pas la moindre, dont les réminiscences d'un antisémitisme assez fidèle à celui qui existait dans les années d'avant la Seconde Guerre mondiale est un autre élément. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous soyons en Europe de l'Ouest immunes contre ces phénomènes. D'abord parce qu'ils sont nés chez nous à une époque où le rideau de fer n'était pas encore tombé. C'est bien en Scandinavie que les protestations anti-étatiques et xénophobes prennent racine. Il faut prendre aussi en compte l'histoire très spécifique des pays d'Europe centrale et orientale. Il ne faut pas considérer qu'ils seraient par nature voués à laisser aux droits des extrêmes une place plus grande que l'Europe occidentale. Il se trouve simplement qu'ils ont une histoire très particulière, une expérience démocratique plus courte, et que, ma foi, il y a une période d'adaptation. Mais c'est bien en Europe occidentale que les premiers succès de cette extrême droite se manifestent. Songez que le mouvement social italien, qui reste fidèle à l'idéologie fasciste, réapparaît en Italie 4 ans, après la libération. Et on voit également en Allemagne, dès la fin des années 40, des partis dont certains cadres ont été non seulement des militants, mais des responsables du Parti National Socialiste, avoir des responsabilités, avoir des élus au Bundestag, même s'ils seront dissous ensuite. Donc, si on reprend le cas de l'Europe centrale et orientale, il y a, je crois, un maître mot dans ce qui s'y passe. C'est la volonté de ne pas passer d'une période de non-souveraineté à une autre période de non-souveraineté. Je m'explique. Voilà des pays qui ont été très brièvement indépendants, qui ont été ensuite envahis par l'Allemagne nazie, qui sont passés aussitôt la guerre terminée, pratiquement, dans l'orbite soviétique. Ils ont adhéré à l'Union européenne. Je crois qu'il y a peut-être là un malentendu d'origine, d'ailleurs, au niveau des peuples, dans ce processus d'adhésion. Cette demande d'adhésion à l'Union européenne, elle était constituée principalement par une demande d'intégrer les normes de l'économie de marché, de passer à l'économie de marché, de s'arrimer à l'espace économique européen. Mais ça ne gommait pas pour autant la volonté de, pour la première fois réellement dans leur histoire, être maître de leur destin. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui émerger en Pologne, en Hongrie, dans d'autres pays de cette région, des mouvements qui sont peut-être l'avenir de ces droites extrêmes et qui sont ce que l'on appelle, pour reprendre le terme de Fared Zakaria, des démocraties illibérales. C'est-à-dire des pays où une droite qui a été en son temps classiquement libérale ou classiquement conservatrice, évoluer vers une forme d'autoritarisme plus affirmée, de xénophobie quasi institutionnalisée, de rejet absolument avoué du multiculturalisme et de la manière dont l'Union européenne établit les priorités, tout en gardant évidemment l'enveloppe de la démocratie. Il y a toujours des élections, il y a toujours le pluripartisme, il existe un certain nombre de contrepoids dans la société civile, de moins en moins. Mais ces partis ne sont en aucun cas des partis d'extrême droite, puisqu'ils sont eux-mêmes débordés à chaque fois par des formations qui, elles, sont réellement dans la continuation des extrêmes droites des années 30. C'est tout le débat pour savoir qui, de M. Orban ou du Jobbik hongrois, sortira vainqueur de la prochaine confrontation électorale. Et finalement, moi je vois un avenir à peu près aussi grand pour ces démocraties libérales que pour les extrêmes droites traditionnelles. Pour conclure, je crois qu'on peut dire que, sans doute après 1945, l'Europe s'est illusionnée sur le fait que la défaite militaire et politique du fascisme et du national-socialisme signait tout simplement la disparition des droites extrêmes du paysage politique. C'était sans doute les croire moins habiles qu'elles ne sont. Il existe des individus qui ont su penser le passage de l'ère des fascismes à l'ère moderne. Les fascismes ont émergé à l'ère des grandes idéologies mobilisatrices, des grandes utopies, à un moment aussi où la politique se faisait avec l'entrée des masses dans le jeu électoral. Nous sommes à l'ère postmoderne. Il existe également des extrêmes droites postmodernes. Elles n'ont plus besoin de mobiliser dans la rue comme le faisaient celles des années 30. Elles n'ont plus besoin de faire campagne avec des hommes et des femmes embrigadés portant un uniforme. Mais au fond, si l'on regarde bien, ce qui reste toujours la matrice de ces mouvements passés et contemporains, c'est le fait de mettre la conception organique de la nation au centre, C'est-à-dire que ça n'est plus le contrat individuel passé avec la nation qui fait la citoyenneté, c'est un lien charnel, héréditaire, ethnique, qui détermine que l'on appartient au groupe ou que l'on est extérieur. Et il y a également, dans ce logiciel, sous une autre forme, mais tout de même, cette idée que l'on doit établir une hiérarchie entre ceux qui nous sont proches et ceux qui viennent d'ailleurs, y compris dans l'accès aux droits que donne l'État. Or, évidemment, c'est un racisme différent, sans doute plus subtil. Nous avons désormais, c'est un point extrêmement important, des législations contre le racisme et l'antisémitisme qui n'existaient pas dans les années 30. L'État désormais protège, heureusement, à peu près partout, les minorités et celles et ceux qui peuvent être les victimes du racisme et de l'antisémitisme. Mais le sentiment profond que ces partis cherchent encore à mobiliser, c'est tout de même celui du refus de l'autre et du refus de la différence.